C'est l'after tour, la deuxième partie. Vingegaard, Remco Evenepoel, Ayuso, Lipovitz, Del Toro et bien sûr Paul Seixas. Voici ses adversaires aux Français pour aller chercher la deuxième place, pourquoi pas, du Tour de France. En tout cas, ça va être passionnant. Pogacar continue à creuser, évidemment. Mais la lutte, là, pour cette deuxième place va être très intéressante. On va évoquer la journée de demain parce que ça va continuer à se bagarrer avant le repos lundi. L'autre enseignement du jour, c'est évidemment ce match qui est très serré, mais on est obligé de dire que Pogacar, lui, continue à creuser, continue à taper sur le Tour de France. Donc, je vous propose de l'écouter. Pogacar, vainqueur encore aujourd'hui à cette arrivée au Markstein.
Oui, je savais qu'Isaac n'était pas à 100%, donc j'attendais les deux derniers kilomètres pour voir s'il y aurait du mouvement. Mais en fait, Decathlon et ensuite Jonas, ils ont vraiment avancé à un rythme très soutenu dans la montée. Je me suis senti bien, j'ai donc dit que j'essaierais les deux derniers kilomètres. Je le sens très bien. Il y a tellement de chance que ça donne juste un coup de pouce supplémentaire pour atteindre le sommet. Alors oui, je me lance aujourd'hui, j'avais de bons sentiments, alors je le prends et je saisis l'occasion.
Richard Vienck, il grappille petit à petit. J'ai envie de dire, malgré tout, il assomme pas le Tour de France, même si l'addition, au bout du compte, commence à être salée. Tu le trouves largement au-dessus ou tu l'attendais encore plus supérieur? Ou alors, on se dit, peut-être il attend Isaac Del Toro un peu de temps en temps.
Il pourrait se lâcher peut-être un peu plus, mais Del Toro est là un peu dans son frein parce qu'ils ont un plan pour le classement général, essayer de mettre deux coureurs UAE sur le podium. Donc, mais Pogacar, je le trouve, il est moins, c'est-à-dire il est moins expressif que les premiers jours du Tour. Premier jour du Tour, il canabilisait un peu la course. Là, je le trouve, il attend le dernier moment. Forcément, il y a des petits écarts et le suspense reste entier. Et ses adversaires derrière sont juste derrière. Il n'est pas là avec 2 minutes d'avance ou une 40. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un match serré. Et quand on voit le profil de ce qui attend demain et les prochains jours jusqu'à Paris, il y a de quoi faire et il y a de quoi dévisser aussi. Hein. 4-5 minutes, on peut à un moment donné subir quelque chose. Donc, je ne lui souhaite pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un étau qui se resserre et derrière, ça se rapproche et il y a un duel.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dresser un baromètre de ses adversaires à Paul Seixas pour éventuellement cette deuxième place. Mais juste avant, on écoute Mauro Gianetti, le manager général de cette équipe UAE, forcément sur la satisfaction. Et puis on va évoquer Del Toro qui fait partie justement des adversaires pour cette deuxième place.
Il a vraiment beaucoup, beaucoup d'adversaires. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas un Tour de France avec autant de haut niveau. Vingegaard, il est très costaud. Et Paul Seixas, encore aujourd'hui, il a encore démontré, même s'il n'y avait pas besoin, qu'il est vraiment costaud. Il est là et il lutte pour le classement général très, très haut. Donc, mais ils ne sont pas loin non plus. Lipovitz, Remco, parce qu'il peut se filer un jour dans une échappée. Donc, il y a Ayuso. Donc, c'est vrai que c'est un très, très, très beau tour.
Voilà, il nous les a listés, Mauro Gianetti, comme si on ne les connaissait pas. Mais il dit il y a une concurrence. Non, les adversaires, ils ne sont pas franchement pour Tadej Pogacar. Maria Azé nous a rejoint. Toi qui es sur la moto toute la journée, une journée avec du soleil ce soir. Mais bon, tu as un peu pris la pluie.
J'ai un peu pris les pluies,
ouais,
oui.
C'était une journée compliquée. On va se faire ce petit baromètre. On commence dans l'ordre du classement actuel. Vingegaard, il en est où?
Vingegaard, il en est où? Il en est à 4 minutes 30 de Tadej Pogacar. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il va regarder plus le classement devant ou le classement derrière? Aujourd'hui, il a fait beaucoup d'efforts pour rattraper Tadej Pogacar pour au final prendre 25 secondes de retard au sommet du col du Hag. Donc il va devoir choisir son classement. Soit Tadej Pogacar est la première place qui est à 4:30, soit surveiller bien Remco Evenepoel qui est à 34 secondes derrière, voire Paul Seixas qui est juste derrière.
Jérôme Pinault, Vingegaard, comment tu le trouves?
De moins en moins bien.
De moins en moins saignant.
Ouais, de moins en moins saignant. Je trouve que aujourd'hui il a fait une belle réaction parce qu'il essaye de suivre, mais les autres rentraient pas et là maintenant il commence à rentrer. Et j'ai l'impression que quand Paul est rentré, il était content d'être arrivé au sommet. Donc je trouve pas dominateur. Il a annoncé qu'il était aussi fort que jamais. On peut le croire, mais la troisième semaine arrive et il y a eu le Giro. Je reste toujours ça. Moi, j'y connais rien au vélo, mais je sais que deux grands tours en dernière, la troisième semaine du deuxième. En général, c'est là que tu payes les pots cassés.
cette équipe Visma-Lisebike, Jérôme Coppel, elle peut vivre une troisième semaine compliquée ?
Elle peut. Aujourd'hui, ils avaient mis deux coureurs dans l'échappée. Ils ont roulé avec Sepp Kuss au pied. La stratégie n'a pas été très lisible au final. Est-ce que c'est parce que Vingegaard n'est pas bien ? Est-ce que c'était pour que Vingegaard tente quelque chose ? Mais c'est pas le genre à vraiment attaquer. Donc d'habitude, il roule ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, il m'a plutôt rassuré aujourd'hui. Je crois pas qu'il court contre Pogacar. Je pense que maintenant, ça y est, c'est terminé. Il a bien compris que Pogacar est devant. Je pense que la stratégie qu'il a utilisée aujourd'hui, c'était pour asphyxier ses adversaires. Mais comme le dit Gégé, ça a pas marché. Et même Paul Sexas, si ça continuait un peu, serait soit revenu, soit l'aurait peut-être même distancé. Donc pour l'instant, Pogacar est seul sur sa planète. Vingegaard est derrière, mais il y a pas une galaxie entre Vingegaard et ceux de derrière.
Il y a peut-être un autre élément, c'est comme c'est des génies du vélo Visma, peut-être qu'ils ont fait rouler devant pour que Pidcock roule devant et que Red Bull passe à l'action comme hier. Finalement, ils n'ont pas réussi, mais
ils
réfléchissent longtemps.
Non, mais Pino, il met des petits baffes.
Il a des amis dans le peloton. Eric, c'est pas régulièrement.
Richard, et je m'en fous, je vis bien avec. Pas de souci.
Richard, est-ce que du côté de Jonas Vingegaard, on doit finalement, effectivement, courir pour cette deuxième place, mais ça veut dire pas essayer de suivre Pogacar et puis placer des attaques à un moment pour là aussi grappiller du temps?
Je pense qu'il a bien couru aujourd'hui. Il est quand même costaud parce que quand Pogacar a attaqué, il a compris. Il a même pas essayé d'y aller. Par contre, c'est lui qui a assuré le train derrière tout le temps. Et donc, quand on est dans un col, on pousse comme ça. Il a fait quand même un super effort. Après, quand il se fait déboîter à 100 mètres, c'est un peu normal qu'il craque, hein, qu'il perd. Moi, il m'a quand même rassuré. Il arrive sur un domaine qui est avantageux pour lui, hormis le contre-la-montre. Donc, l'étape de demain, ça va être bien pour lui. Et la dernière semaine, ça va être bien aussi pour lui. On va dire pour lui. On ne parle pas de Pogacar, on parle pour ses adversaires. Hein. Donc, je pense que les prochains jours seront prometteurs pour lui et il doit tout tenter pour prendre du temps avec ce contre-la-montre. Ce contre-la-montre, derrière, il va avoir le feu. Donc, je pense que l'étape de demain va être très importante pour creuser un peu l'écart parce qu'après, on va être dans les derniers jours du tour très dur.
Je me demande s'il a intérêt vraiment à rouler derrière Pogacar ou pas laisser finalement les autres le faire, parce que c'est lui qui prend les responsabilités, parce que son adversaire c'était Pogacar, mais aujourd'hui c'est plus Pogacar son adversaire, c'est les autres qui sont juste derrière lui. Est-ce que dans les jours qui viennent, notamment demain, il n'a pas intérêt à dire allez les gars, vous voulez monter sur le podium, allez-y, et puis là il pourra peut-être les contrer. Je ne sais pas comment, mais là en prenant la responsabilité, en roulant toujours derrière, il prend des coups de bambou sur la fin de l'étape, ça a été le l'autre jour, encore aujourd'hui. Hein.
Ben oui, parce qu'avant, il pouvait faire ça, parce qu'il était sûr de faire deuxième. Maintenant, c'est plus le cas. On en est quand même moins sûr. Alors, avant le tour, j'étais sûr et certain qu'il terminerait deuxième, qu'il aurait vraiment plus de marge sur les autres. Et là, peut-être à cause du Giro, pourtant, il dit qu'il est meilleur. Mais c'est vrai que si vraiment son objectif final, c'est la deuxième place pour son équipe, va falloir changer de stratégie. Parce que si les autres montent un peu en puissance et lui, comme le pense GG, dans la troisième semaine, va coincer un petit peu, les forces vont peut-être s'inverser. Et là, il fait un peu le jeu de Paul Sexas, d'Ayuso, de Remco Evenepoel, voire de Lipovic. Faudrait connaître l'objectif précis de cette formation Visma Lisebike. Est-ce qu'elle va encore nous dire non, mais on croit encore à la victoire au Tour de France? Parce que je ne veux pas leur retaper dessus encore une fois, mais l'année dernière, il y a deux ans, ils nous ont dit ça aussi. On y croit toujours, on a un plan, mais on sent bien que même quand ils le disent, ils ne le croient pas vraiment. Là, maintenant, il n'y a plus de plan. Je veux dire, maintenant, c'est soit la deuxième place, soit fais-toi plaisir, tente des choses qui t'a explosé, quoi.
Là aujourd'hui, dans la montée du col du Hague, expliquez-moi tous les deux pourquoi il a roulé. Pourquoi lui a roulé, a fait le tempo?
Je pense pour épailler les autres au tempo, au train comme il faisait avant.
Oui, mais sauf qu'il n'épaille plus personne.
Quand il a vu Remco péter, à mon avis, c'est là, il s'est dit, je vais y aller à mon train, j'ai un lièvre devant qui est Poggi, et donc c'est pour ça qu'à mon avis...
Mais Richard, il a roulé avant même que Poggi attaque, hein.
Ouais, oui,
il y avait Carapaz seulement.
Oui, mais pourquoi déjà. Parce qu'il voyait derrière qu'il y avait des prétendants au podium qui étaient en train de faire de l'huile. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais monter à mon train. Et il a fait un travail de sape. Et donc, quand tu es dans un col, tu fais ça, il faut être costaud quand même, hein, parce que il n'y a pas. Voilà, donc je pense qu'il a fait ça parce qu'il a peur du podium et lui a monté à son train. Voilà, donc après il s'est pris l'attaque de Pogacar. Donc je pense qu'il a peur que quelqu'un vienne lui prendre la deuxième place. Il court déjà pour sauver sa deuxième place, sauver le podium. C'est pour ça que il met tout pour prendre du champ.
Oui, mais il court comme quand il était sûr de faire deuxième, ou en tout cas quand il était le deuxième plus fort. Rappelez-vous du plateau de Bay, par exemple. Il avait fait ça, il avait roulé, Pogacar était parti, mais il est encore largement deuxième, Jonas Vingegaard. Donc son train, son tempo, son seuil, vous appelez ça comme vous voulez, dans une bosse comme celle-ci, son seuil avant, son deuxième seuil, était beaucoup plus haut que les autres. Donc Pogacar était encore au-dessus, lui il était là, mais il pouvait asphyxier tous les autres. Mais maintenant, ça ne le fait plus, ça ne marche plus. Donc il va falloir qu'ils adaptent un petit peu leur stratégie.
Voilà pour Vingegaard. Autre adversaire de Paul Sexas pour aller chercher la deuxième place. On va faire la famille Bora avec Remco Evenepoel et Florian Lipovits, les meilleurs amis du monde. Et Remco Evenepoel qui finit encore devant, Maria.
Oui, il gère bien ses efforts, hein, Remco Evenepoel. On en parle avec nos confrères belges. Il n'hésite pas en fait à lâcher typiquement dans l'ascension à 4,3 km du sommet quand Vingegaard dictait vraiment le tempo. Il lâche et lui, il se met à son rythme. Il monte vraiment à son rythme et à la fin, quand il y a un replat, il utilise tout son punch pour évidemment battre notamment Florian Lipovits à l'arrivée et limiter la casse, hein, parce qu'au final il termine qu'à 6 secondes de Jonas Vingegaard. Voilà, il est toujours 3ème du général Remco Evenepoel, mais Paul Sexas n'est qu'à 15 secondes derrière, et surtout demain il aura probablement plus de mal à suivre dans l'ascension du plateau de Solaison, parce que ce sera quand même une montée beaucoup moins pour lui, il n'y aura pas de replat derrière. Et Florian Lipovits, évidemment son coéquipier, lui pour le coup c'est un autre profil, hein, il a vraiment le profil de grimpeur, c'est lui qui attaque, qui est le premier à attaquer dans le du Hague, et donc il a moins de punch que Remco Evenepoel, donc il finit derrière, mais peut-être que sur des efforts plus longs et des longues ascensions, il sera meilleur Florian Lipovits.
Ça ressemble à quoi demain, en quelques mots, Jérôme Coppel, cette étape,
parce que c'est la plus belle.
Ah, très bien.
C'est la plus belle. On passe dans mon village, mes routes d'entraînement. Non, elle est magnifique. On part de Champagnole, là où il y aura la tranche du cyclo les 5 et 6 septembre pour ceux qui voudraient rouler sur les routes du Tour de France. Et voilà, bien sûr. Donc, départ de Champagnole, arrivée plateau de Solaison, la Côte des Rousses. GG connaît bien la première difficulté de la journée dans le Jura. Mais en fait, tout va se passer dans les 50 derniers kilomètres avec la montée du Salève, le col de la Croisette, par son côté le plus dur. En fait, il y a quatre côtés. Celui-là, c'est le plus court mais le plus dur, 5 km. Il y a en moyenne, hein, je parle, le kilomètre le plus facile est à 9,2% de moyenne. Sinon, il y a des passages à 15-16%. On était passé au Dauphiné en 2008 à l'époque et ça en avait surpris plus d'un. Mais à partir de ce Salève, il n'y a plus de temps de répit. Après, on va descendre, monter le mont qui n'est pas très difficile. Et ensuite, c'est plutôt une vallée descendante jusqu'au pied de la dernière difficulté.
Après, la Roche-Foron, quoi.
La Roche-sur-Foron, exactement. Alors ça, c'est presque une ville. Moi, c'est Arbusigny, mon village, en haut du mont. Et ensuite, c'est plutôt descendant jusqu'au pied du plateau de Solaison. Et là, Maria pourra vous en parler, parce que même en voiture, elle a failli ne pas arriver jusqu'en haut, tellement c'est difficile.
Je monterai en moto demain, donc voilà, ça va aller.
Bon, ça devrait aller, du coup. 11 km, on l'a vu autour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Très, très difficile. 9% de pente moyenne sur les 11 derniers kilomètres, mais pas du tout de répit. Par contre, il y aura même une portion, il n'y aura pas de spectateurs. Il n'y a aucun répit sur cette montée. Et dès le pied, ça monte vraiment très, très raide. Là, tu ne peux pas vraiment... Justement, tu parlais de Remco Evenepoel qui monte comme un rouleur plutôt. Là, s'il fait ça dès le pied, il ne pourra jamais revenir jusqu'au sommet.
Richard, viens, cette famille où il y a des histoires avec Florian Lipovits et Remco Evenepoel, demain, ça peut peut-être être compliqué pour eux, parce qu'il y a un moment, ils devraient être forts justement. Ils sont deux costauds, mais on a l'impression que l'entente n'est vraiment pas là, quoi.
Ouais, mais demain, ça sera à la pédale. Hein. Et c'est tellement dur. Hein. Le Salève, je connais. Et l'enchaînement du Salève, celui qui va résister au Salève, il va l'avoir dans la gorge. Et pour finir, il va carrément exploser. Je pense demain, dans l'équipe Bora, il y aura qu'un leader. Ça va être simple. Parce que le parcours, il est tellement dur. L'arrivée est tellement dure. Avec des pourcentages, je parle. Hein. C'est vraiment pour les grimpeurs. Donc les grimpeurs vont être à l'aise. Ceux qui sont en limite, en sur-régime, ils vont exploser. Ça, c'est une certitude. Donc, à moins qu'on ait une météo pluvieuse, que ça soit un peu bridé, vous voyez, tout comme ça. Mais hormis ça, moi, je vois que dans cette équipe Bora, il y aura un seul leader demain soir. Ça sera sûrement Lipovic.
Jérôme, il faut que Remco, demain, se mette au service de Lipovits. Est-ce qu'il en est capable ?
Il ne fera pas.
Jamais le faire.
Jamais de la vie. Il va...
je suis d'accord avec Maria de ce qu'elle dit, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il gère. Il ne gère pas, il a pété aujourd'hui. Dès que c'est dur, il pète. Et après, il s'accroche.
Justement,
et il arrive à remettre du braquet.
On devrait lui dire. Tu vois bien,
jamais de la vie. C'est Remco Evenepoel, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Messi, c'est Neymar. Tu lui dis pas ce qu'il faut qu'il fasse. Il se prend pour le meilleur. Demain, il va payer. Demain soir, la messe est dite chez Bora.
On est d'accord qu'en revanche, s'il se prenait pas pour le meilleur, c'est ce qu'il devrait faire.
Bah, après Solaison, après avoir pris un ticket, oui. Mais il fera pas avant. C'est pas possible. Moi, je vois pas comment il peut pas péter demain. Il a déjà fait deux amorces de serrage dans des petits cols, des longs cols. Et GG me dit, je le crois volontiers, que c'est très dur. Dans un col de 11 km à 9%, Remco va prendre 2-3 minutes. Peut-être sur Pogacar un peu plus, mais sur des Vingegaard et des Sexas, et même sur son coéquipier Lipovitz, même si aujourd'hui il a montré quelques signes de faiblesse. Demain soir, il sera équipier, mais il va vouloir gagner le chrono, et puis après, bah, il fera la course. Mais vous voyez Remco Evenepoel vous mettre à rouler sur, pour Lipovitz, quand c'est pas pour lui.
Je suis pas sûr, non, mais.
moi, je pense qu'il va se relever. Il va se relever, s'il pète, il va se relever et il va penser qu'une chose, sauver son tour. Sauver son tour, il faut qu'il gagne le chrono. Ouais, le chrono.
Ouais, le chrono.
Et ça, il va prendre la décision demain. Mais par contre, comme tu le dis, il va sauver son tour, mais pas pour faire l'équipier. Hein. Donc il va sauver son tour.
Ouais, et puis Richard, franchement, depuis le début, on la voit, la baston entre les deux. Il y a déjà Patchy Villa qui a dû intervenir pour régler le problème parce qu'il y a déjà eu des déclarations d'Evenepoel, notamment en Lioran. Ça peut pas bien s'entendre, ça peut pas bien finir. Même si Lipovitz, il est hermétique un peu à tout ça, ça doit le peser dans le staff. Ils doivent être divisés en deux. Faut pas parler de l'un quand il y a l'autre. Enfin, ça doit être très compliqué.
Je trouve un peu dur parce que moi j'ai vu leur vidéo dans le bus, elle m'a convaincu. Là, j'étais. Je suis sûr que tout va bien moi dans cette équipe.
Sincérité.
Franchement, c'était incroyable.
Il nous reste.
Je suis pas aussi pessimiste que vous sur Evenepoel. On verra demain évidemment, mais je trouve qu'il gère bien ses efforts. Il a pris peut-être deux coups de serrage, mais. On va voir demain.
Ça dépendra.
Demain, c'est l'instant de vérité, parce que derrière, il peut reprendre du temps dans le chrono. Je demande à voir.
Ça dépendra de quand la bagarre va partir. Il peut encore limiter, mais si la bagarre part de loin, il ne sera pas dans le final.
C'est vrai que ça peut jouer, évidemment. Il nous reste deux garçons à étudier dans ce baromètre. Tout d'abord, Ayuso. Maria.
Juan Ayuso, cinquième du général, qui a perdu son maillot blanc aujourd'hui pour 3 secondes au profit de Paul Sexas. Un peu moins à l'aise dans les forts pourcentages, mais ça reste un candidat très sérieux. C'est difficile, je trouve, de l'analyser. Il est assez inconstant, Juan Ayuso. Il peut suivre, mais en même temps, il ne peut pas suivre les meilleurs.
Il est toujours là quand même, il est très jeune. Et Jérôme, toi, tu pensais qu'aujourd'hui, il allait prendre plus cher.
Ouais, bah finalement, il m'a surpris parce que je l'ai vu mal placé au pied et j'ai l'impression qu'il n'est pas posé comme chez UAE Emirates sur son vélo. Alors ça me perturbe un peu, il est très couché sur son vélo, j'ai toujours l'impression qu'il est un peu à bloc, donc il faut que je m'enlève ça de la tête parce que finalement il n'est pas à bloc, il a quand même bien résisté. Voilà, il est dans un, comme Evenepoel et Lipovitz, tu sens qu'il est juste, mais il est toujours là quand même. Alors à voir si, comme le dit Maria, c'est les forts pourcentages qu'il n'aime pas du tout, on va être fixé demain. Demain, on a eu une montée, le Salève, avec des très forts pourcentages et l'autre qui est longue avec des pourcentages assez durs, mais qui connaît, lui. Il a fait le Tara, il a été très bien derrière Del Toro, justement. Donc, il connaît cette montée, il sait comment la gérer, même si l'adversité n'est pas la même. Ça, c'est un avantage, c'est un petit truc. Paul Sexas la connaît par cœur, cette montée, mais il ne l'a jamais fait en course non plus. Donc, ça, c'est un petit avantage pour Ayuso et Del Toro, par exemple.
Je rappelle, avant de continuer à étudier les adversaires de Paul Sexas, que vous pouvez nous appeler au 3216 pour poser vos questions dans quelques instants à nos consultants Jérôme Coppel, Jérôme Pinault et Richard Virenque. Ton avis, Richard, sur Juan Ayuso, un petit peu moins bien, peut-être, on le sent un peu à la limite. Demain, ça peut être compliqué pour lui aussi.
Oui, ça peut être compliqué, surtout si à un moment donné, on voit Pogacar avoir un petit problème, parce que c'est quand même un équipier. Et vous imaginez, l'équipe UAE aujourd'hui court pour mettre deux garçons sur le podium. Donc, c'est pas on veut gagner le tour. On veut gagner le tour, mais on veut mettre aussi un deuxième. Donc, c'est pour vous voir, vous montrer la marge de cette équipe, c'est qu'il joue avec le deuxième, là. C'est-à-dire qu'il y a Pogacar devant et on attend. Pogacar attend. Ben là, ça fait maintenant 3 jours que Pogacar, il court pour Ayuso pour le dire, bon, je veux qu'il fasse deuxième avec moi à la fin du tour. Donc, je me cale ma course sur lui. C'est quand même assez incroyable. D'avoir cette force de cette équipe, de se dire, bon voilà, on court avec deux coureurs pour faire 1 et 2 ou 1 et 3. Donc, je crois qu'à un moment donné, s'ils ont un souci, Ayuso, il va sauter en l'air.
Del Toro, tu veux dire?
Ouais, Del Toro. Ouais. Del Toro va sauter en l'air parce qu'il va devoir faire l'équipier. Là aujourd'hui, il est dans les roues, il est protégé, tout ça, et il saute un peu. Donc on sent qu'il est un électron libre, mais à la limite. Donc il faudrait pas qu'il aille chercher des bidons entre guillemets, parce que si c'est le cas, d'un coup, il va disparaître du classement.
Et oui, on parlait d'Ayuso et tu as évoqué toi Del Toro, c'est le dernier en fait des adversaires pour Paul Seixas, Jérôme Pinault, avec une situation particulière effectivement pour le Mexicain. On sent que chez UAE, on a envie de faire un et deux si possible. Est-ce que ça peut être une stratégie finalement où on se dit ça va être compliqué et qu'il faut maintenant vraiment se consacrer à Pogacar, il démarre quand il veut et puis Del Toro, bah il joue lui de son côté.
Non, si Del Toro a ses jambes, comme aujourd'hui, parce qu'il a un peu craqué, mais il est bien revenu, et il n'y aura pas de souci, ils pourront jouer les deux. Pogacar pourra attaquer, et il a tellement de marge aujourd'hui, quand Pogacar a attaqué, personne n'a bougé, donc Del Toro peut évidemment jouer une place sur le podium.
Eh bien, on va étudier ça attentivement dès demain avec ce plateau de Solaison.